Alors j'ai proposé humanité, inhumanité numérique. Alors je m'appelle Marie Van Olsem, moi je suis linguiste, j'ai la particularité d'être linguiste dans une fac de sciences à Rouen, et ça fait plusieurs années, pas mal d'années, que je travaille sur l'interprétation des documents numériques. Alors ce que je vais commencer par vous expliquer, je ne vais pas parler du numérique tout de suite, parce que je vais vous parler méthode d'abord. D'abord, j'ai mis un S, il n'y a pas dans le programme, mais ce n'est pas bien grave, à humanité, les humanités. Je vais expliquer ce que sont les sciences de la culture. Alors, à la question, c'est les sciences qui étudient la culture. La culture, ça peut être tout. Alors, si on dit ça, ça fait un peu une tautologie, on ne voit pas trop de quoi il s'agit. Je vais expliquer... En plus, comme elles sont malmenées par qu'il y a des menaces réelles sur les sciences de la culture avec les technologies numériques, je vais d'abord expliquer ce qu'elles sont. Et en fin de compte, de sciences de la culture, on les explique par rapport aux autres sciences. Hein, on ne peut pas expliquer en soi, on explique par rapport aux autres. C'est-à-dire ce qu'on appelle les sciences dites de la nature. Là-dedans, on peut mettre aussi bien, je ne vais pas lancer le débat, mais des sciences de la vie comme les sciences logico-formelles, telles les mathématiques, etc. Et en fin de compte, entre les deux, ce n'est pas une dichotomie, c'est une question de méthode. C'est-à-dire que je parlerai de méthode des sciences de la culture et par rapport aux méthodes des sciences de la nature. Pourquoi j'en parle ? Parce que dans les sciences de la culture, avec les technologies numériques tout particulièrement, on essaie d'appliquer des méthodes qui ne sont pas les méthodes des sciences de la culture, mais des méthodes plutôt des sciences de la nature. Donc je vais d'abord expliquer ce que c'est, parce que ce n'est pas évident, parce que beaucoup de gens qui travaillent en linguistique ou autre n'emploient pas le mot de sciences de la culture. Pourtant, il n'est pas tout jeune. Il vient de la philosophie allemande, il vient de Heinrich Rickert en 1800, je sais plus quoi, 1900, et surtout, alors beaucoup plus près de nous, il a été développé par Hans Cassirer, qui est un philosophe allemand, qui a fait pas mal d'ouvrages sur la philosophie des formes symboliques, celles dont on se dote et qui sont les sciences des valeurs. Bon. Alors, on ne m'entend plus, Hans Cassirer. Alors donc, je vais expliquer les méthodes des sciences de la culture pour essayer de bien me faire comprendre, avant d'aborder le numérique. Alors, je ne vais pas dire qu'elles sont humaines par rapport aux autres qui seraient inhumaines, puisque c'est une question de méthode, et que les unes comme les autres, toutes les méthodes scientifiques, je dirais que toutes les méthodes scientifiques cherchent à représenter les connaissances qui ne sont connaissances que si elles sont partagées, et ces connaissances, c'est une trivialité ce que je vais vous dire, ne sont que production humaine. Elles ne tombent pas du ciel, sauf, mais ce n'est pas l'objet de cette université, pour le ciel, aller voir ailleurs. Bien. Donc on a d'un côté, et ce n'est pas non plus péjoratif, c'est ça le problème qu'on a avec les sciences de la culture, ou les sciences dites humaines, ou les sciences dites très molles, c'est qu'elles se vivent péjorativement. Du coup, à quoi on assiste aujourd'hui dans les laboratoires de lettres ? C'est quand on veut des subventions, eh ben faut faire des projets avec des camemberts, des histogrammes, des machins, parce que ça se voit. Et que tout ce qui paraît subjectif, ça paraît entaché de noms scientifiques. Or, les méthodes des sciences de la culture sont des méthodes rigoureuses. C'est même une science rigoureuse, si je voulais paraphraser un ouvrage de Husserl, qui était philosophe et phénoménologue. Alors, je dirais que les sciences, les méthodes des sciences de la nature, donc sciences exactes ou appliquées, sont des méthodes généralisantes. C'est-à-dire qu'elles recherchent des lois, des principes et des principes prédictifs. Les autres, les méthodes propres aux sciences de la culture, sont des méthodes individualisantes. Ça ne veut pas dire péjorative, hein, mais voyez bien, quand on parle d'individualisant, il faut s'expliquer. Donc elles sont attachées à l'unicité du phénomène. Et ça ne retire rien à leur rigueur méthodologique. Et en plus, pour comprendre la complexité du monde, mais même par rapport au comportement humain face au réchauffement climatique dont vient de parler Dominique, bah, faut une dualité de toutes les méthodes. Parce que les objets qu'on étudie sont éminemment complexes. Donc pourquoi rejeter une bardée de méthodes qui sont propres aux sciences de la nature? Et pourtant, c'est bien à ça que l'on a affaire. Alors, je voulais prendre comme exemple, et je ne sais plus où je l'ai mis, un stylo. Où c'est que j'ai mis mon stylo? Bref, un stylo bille, tout bêtement. Un stylo bille. Voilà, un stylo bille. Voilà. Je dis, il faut que je prenne un exemple. Alors, si je prends le stylo bille, là. Le stylo bille, c'est un objet, bon, c'est un construit humain, c'est un artefact, mais comme beaucoup de choses qu'on a, un texte aussi. Hein, voilà. Donc, on a pour étudier, bon, admettons, on découvre ce genre d'objet, on voit bien qu'il est composé de plein de choses. À la fois, c'est du plastique, donc ça fait partie des bardées d'études sur les polymères, leur résistance, etc. Il y a de l'encre, bah là aussi, la fluidité de l'encre, hein, donc ça fait partie du domaine de la chimie, bien entendu. Mais, alors, il peut y avoir aussi des nanos, je passe, hein, vous voyez qu'on peut étudier un même objet, mais la couleur de l'encre, bon là, c'est un quadricouleur, mais on va utiliser le noir et le bleu pour écrire et le rouge pour corriger. Déjà, là, on fait partie, là, on est dans le domaine des usages du stylo, puisqu'on on utilisera plus, alors l'éducation est passée par là, le rouge, c'est la couleur plutôt de la correction. Or, ça peut être autre chose que la couleur de la correction. Je suis allée il y a quelques années dans un congrès et je suis allée voir une bibliothèque avec de très très vieux ouvrages au milieu, enfin dans le désert marocain. Et là, il y a un vieux monsieur bibliothécaire qui m'a montré des ouvrages très très anciens de science, écrits en langue arabe. Et il y avait quatre couleurs, non trois, j'exagère, il y avait trois couleurs. Il y avait le vert, c'était la parole du prophète. Il y avait le rouge, c'était le commentateur. Et il y avait le vert, rouge. Et il y avait le bleu, c'était ce que d'un point de vue scientifique, on pouvait en tirer. Autrement dit, il y avait trois couleurs parce qu'il y avait trois commentateurs de ce livre de science qui datait du 15e, 16e siècle, etc., écrit à la main. Donc, vous voyez la couleur. Là, déjà, pour étudier pourquoi on utilise l'encre rouge, à quel l'usage du stylo. Et après, on peut aussi étudier le stylo avec l'histoire de l'écriture aussi. Vous voyez ? Donc, un même objet d'étude, peut-être, pour être complètement étudié, on ne peut pas étudier le stylo si on ne parle pas aussi de son usage. Et là, pour du coup, on est dans des méthodes qui sont propres aux sciences de la culture. Donc c'était pour expliquer la dualité, et la dualité c'est ce qui va ensemble, c'est pas la contradiction, ni parce que c'est particulier, c'est péjoratif. En ce qui concerne donc les sciences de la culture, elles s'intéressent à la totalité des formes, je vais vous dire c'est vaste, on va dire, mais tout le monde s'y reconnaît, dans laquelle se déroule la vie humaine. Totalité allant jusqu'à la formation des individus. Alors là vous allez me dire, ben, on est comme Monsieur Jourdain, on est tous dans les sciences de la culture sans le savoir. Mais c'est une question de méthode, d'approche de l'objet d'étude. Je tiens bien à dire. Les sciences de la culture s'intéressent aussi à la formation du sujet humain. On pourrait dire, du sujet donc humain, on pourrait dire qu'elles englobent aussi une partie de l'ontogénèse, c'est-à-dire du développement progressif de l'individu, dont on sait, puisque on est, c'est le néocène, on est bien prématuré, que le fait qu'on grandisse, c'est un environnement humain, et que l'homme ou la femme que nous sommes, adulte, n'est pas en germe dans l'embryon. Voilà. C'est bien autre chose qui nous compose. Voilà. Donc les sciences de la nature, elles, par contre, ne s'intéressent pas à la singularité, sauf dans le cas de la phylogénèse. Bon, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais c'est naturellement les liens de parenté, c'est peut-être là où elles sont plus dans le particulier. Les cultures essaient de rendre compte de l'ensemble des représentations partagées et de leur transformation. Et les représentations partagées, bah, ce sont les connaissances. Et avec les connaissances, ce sont les règles, ce sont les lois dont on s'est doté, qui n'ont pas pour but de rester ad vitam aeternam, mais même dans les domaines scientifiques, qui ont pour but d'être invalidées pour pouvoir avancer. Hein ? On n'est pas dans le fixisme. Et la subjectivité, ce n'est pas péjoratif. Descendre au niveau du sujet ou de l'individu ou du fait isolé n'est pas péjoratif. Et donc, il faut l'opposer, par contre, à l'individualisme méthodique. L'individualisme méthodique qui a ses traductions, là je renvoie aux ouvrages qu'a écrit Jacques Testard, c'est-à-dire au fondement scientifique, la recherche d'un fondement scientifique de la nature humaine, naturellement, eh bien, l'homme déterminé par ses gènes, donc avec le déterminisme génétique. Mais ça, cet individualisme méthodique, il atteint aussi les sciences de l'esprit. Eh bien oui, les fondements neuronaux. Et dans le débat qui a opposé il y a pas mal d'années, parce qu'il y a plein de courants dans ce fonctionnalisme, les fonctions du cerveau, il y a Jean-Pierre Changeux qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'homme neuronal. Et il y a eu un débat entre Jean-Pierre Changeux et Paul Ricoeur. Et Paul Ricoeur lui a dit une phrase que moi je trouve admirable, « Le cerveau ne pense pas, je pense. » C'est admirable, ça veut dire tellement de choses. Autrement dit, les sciences, les méthodes des sciences de la culture se pensent dans l'échange. S'il y a un jeu, c'est parce qu'il y a un tu. Ou s'il y a un tu, c'est parce qu'il y a un jeu. Vous voyez, c'est propre à notre espèce, à notre construit social, à notre vision du monde et notre transmission, la transmission de nos valeurs sont pour une bonne part intergénérationnelles. Et là, je vais parler de l'éducation puisque c'est particulièrement le domaine de l'éducation qui est mis à mal aujourd'hui sur le modèle productiviste et sur le modèle économique de sciences qui n'ont rien à voir avec les valeurs humaines. De ce point de vue-là, bon, je ne veux pas faire un grand aparté, mais hier, sous l'arbre à palabre, ou ici, je ne sais plus, oui, je crois que c'est sous l'arbre à palabre, le matin, tu as parlé de l'ouvrage de Gaucher, Transmettre, apprendre. Et je t'ai dit, il y a un autre ouvrage, c'était 2014, l'ouvrage de Gaucher est à Lille, ils sont plusieurs, je n'ai pas les noms en tête. C'est suite à un séminaire qui s'est tenu pendant longtemps au couvent des Bernardins. Et en 2013, est sorti un autre ouvrage d'un linguiste que je connais bien, qui s'appelle François Rastier. Ce n'est pas pour invalider du tout la démarche de Gaucher, mais c'est pour montrer que le Gaucher, dans leurs ouvrages, il ne cherche pas à approfondir les substrats économiques de ce qu'il appelle les marques de la modernité. Les marques de la modernité, elles ne tombent pas du ciel. Alors, ni les substrats économiques, c'est le petit bémol, parce que c'est un travail remarquable, ni il s'intéresse pas non plus au contenu. Alors, François Rastier est sémanticien, c'est-à-dire qu'il est linguiste, comme moi, et lui, le sous-titre de son ouvrage, c'est l'éducation contre l'idéologie managériale, ce qui veut tout dire. Notre transmission est intergénérationnelle. Et ça va m'amener au deuxième point de mon intervention. Je vais être assez rapide, puisque là, j'espère vous avoir convaincu, enfin, au moins montré ce qu'étaient les sciences de la culture. Parce que aussi, j'ai dit la singularité, mais quand on prend la totalité des formes par lesquelles s'exprime la vie humaine, hein, dans son environnement, cet environnement que nous constituons et qui nous constitue en retour, environnement humain, mais aussi l'environnement tout court, la totalité des formes, c'est pas toutes les formes. Et là aussi, avec le numérique, on a des projets faramineux, on a des projets autour de l'ouvrage Jemel et Bell qui a donné lieu à un film Total Recall, c'est-à-dire l'enregistrement tout au long de la vie. Je peux avoir une caméra sur moi et enregistrer tout ce que je fais pour mes générations futures. Ils vont se marrer, hein, avec 40 ans de vidéo. Mais c'est complètement idiot. L'accumulation, le tout n'est pas... Notre faculté à penser, c'est notre faculté à oublier. Si on ne peut pas oublier, si on ne peut pas sélectionner, on ne peut pas penser. Et là, je vous renvoie sur une petite nouvelle de Louis-Georges Borges qui s'appelle Funès ou le souvenir absolu. Et Funès, il ne peut rien oublier. Donc, il vit la nuit pour avoir le minimum d'impressions possibles. Et il dit à la personne qui vient le voir... Ma mémoire, monsieur, n'est qu'un tas d'ordures. Parce que ne rien oublier, c'est ne pas penser. Et donc, l'espèce humaine, enfin, les grands récits, enfin, les récits mythiques, l'épopée par lequel nous nous sommes construits, ces récits qui nous ont permis de nous constituer dans notre humanité, de nous constituer socialement. Alors je pense à l'Odyssée, je pense à sa version arabe qui est Simbad le marin, qui est à peu près la même chose, enfin, avec quelques années de décalage quand même. Je pense à Dante, je pense à tous ces récits qui constituent notre faculté en tant qu'humain à surmonter les obstacles et à défendre des valeurs. C'est ça, et ce n'est pas une chronique du passé. Or, avec Internet, on a l'impression qu'on peut tout enregistrer et que le passé, c'est une série de chroniques. Les nouvelles que l'on entend à la radio jour et qui sont en permanence invalidées par le lendemain, c'est ça qu'on veut nous faire croire. C'est qu'on est une accumulation. Eh bien non, on est une construction. Alors, maintenant, le problème, c'est qu'on a effectivement un mouvement les deux traductions, je vais prendre le domaine de l'éducation et le domaine là, qui va m'amener au numérique, des nouvelles, dites nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans le domaine de l'éducation, on voit les effets déjà complètement délétères d'une réduction drastique des méthodes et des sciences de la culture, à savoir la suppression, la restriction des contenus dans une logique comptable. Il y avait quelques enseignants de lettres classiques et on voit bien comment les départements des humanités, notamment les départements de lettres classiques, mais aussi de langues, ferment massivement dans les universités en France en ce moment. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est en ce moment. Je vous renvoie à la phrase merveilleuse de Sarkozy qui, au moment de la lutte des enseignants-chercheurs, c'était en 2000, je ne sais plus, avait dit « Mais à quoi peut bien servir de lire La Princesse de Clèves pour passer un concours ?» Ben oui, à quoi peut servir La Princesse de Clèves pour passer un concours ? La lecture de ce roman d'amour courtois, en fait, La Princesse de Clèves. Eh bien oui, puisque en fin de compte, on ne raisonne plus en termes de connaissances, mais de compétences. Et là, autre domaine qui... Là, on est dans le numérique, hein, c'est les fameux MOOC, les Massive Online Open Course, c'est-à-dire les cours massifs en ligne. Et donc, les MOOC distribuent des compétences, des certificats de compétences. Et donc, ça veut dire que l'éducation n'est qu'une préparation à l'emploi et que l'homme n'est qu'une ressource humaine. Mais Google va montrer que l'homme est bien une ressource humaine parce que je vais en arriver au NTIC. Alors, j'ai préféré commencer par les sciences de la culture parce que, bon, il est... J'ai encore combien de temps ? Waouh ! Parce que là, je vais aborder qui je suis. Je vous ai dit, je suis Marie-Vonne Holzem, je suis linguiste. Je n'ai pas toujours été linguiste. J'ai commencé ma carrière professionnelle par bibliothécaire en sciences. J'étais 15 ans bibliothécaire en sciences. Bibliothécaire passionnée par le fait que je donnais à lire et je pouvais donner à voir. Ah oui, mais non. Ah oui, mais non, parce que j'étais responsable de l'indexation des thèses à l'Université de Rouen, des thèses de sciences. Et je voyais arriver des gens. Naturellement, tout produit humain, la thèse, par définition, apporte quelque chose de nouveau. Sinon, c'est la répétition. Sinon, c'est la psalmodie. Hein, on répète. Donc, j'avais des gens qui arrivaient et je devais signaler leur travail avec quoi ? Mes classifications. La plus belle d'entre elles, Rameau, la classification en vogue dans toutes les bibliothèques universitaires, et je devais trouver les cases pour faire rentrer leur travail. Alors, ça ne collait pas. Parce que dès qu'ils avaient un mot nouveau, ou alors, pas forcément un mot nouveau, mais ils rajoutaient quelque chose à un terme existant, parce que c'était leur travail, où ils faisaient, ils mélangeaient des champs disciplinaires, parce que c'est l'objet de toute recherche, de mettre à la fois de la biologie et de la géologie, enfin j'ai eu des tas d'exemples, et ben, c'était vraiment une maltraitance linguistique pour signaler leur travail. Les classifications, Rameau est là pour indexer. Donc, je suis rentrée en révolte contre le monde des sciences, enfin du signalement fixiste, et j'en ai fait une thèse. C'est comme ça que je suis devenue linguiste. Parce que dans les sciences de l'information et de la communication, ça, on va vous dire, mais non, le sens d'un mot, il est dans les mots-clés. Et on peut accéder avec le web aux métadonnées, au sens d'un texte. Non, le sens d'un texte, c'est parce que vous le lisez. Alors le sens, il change pas radicalement d'un lecteur à l'autre, mais même vous allez lire le même texte à 2-3 ans de différence, vous ne le voyez pas pareil. Le sens des mots n'est pas le même, et c'est bien pourtant les mêmes mots. un texte resémantise les mots. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Et ça, c'est très important. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais les sciences de l'infocom, c'est les sciences de l'étiquetage. Alors avec les NTIC, je peux vous dire, je m'excuse s'il y en a qui sont dans les sciences de l'infocom, hein, ce n'est pas du tout péjoratif, mais c'est quand même ça derrière. Alors elle se base sur le fait que ce n'est pas nouveau, puisque dès le fin 17e siècle, je ne vais pas remonter avant, mais bon, Leibniz, qui était mathématicien et philosophe, se présentait comme le bibliothécaire de Dieu. Et il cherchait à faire un inventaire de toutes les connaissances acquises et mal rangées. Mais c'est logique, quand on veut organiser les connaissances, représenter les connaissances, la première chose qu'on fait, c'est de les organiser les unes par rapport aux autres. Et qu'est-ce qu'on organise ? On organise des mots. Bah oui, censé représenter les connaissances. Voilà. Donc, en fin de compte, c'est logique. Faire ça, c'est nécessaire. Une classification, c'est nécessaire pour ranger les choses. Le problème, c'est de ne pas les considérer comme quelque chose qui va de soi et qui ne doit pas bouger. Les classifications sont des visions, des représentations sur le monde, et on s'en rendait très très vite compte quand on regarde la classification Dewey des bibliothèques, celle qui indexe tous les ouvrages des bibliothèques au monde, qui est nord-américaine. Il y a eu des tentatives de classification un peu dans le monde. Je ne vais pas vous faire une histoire des classifications. Si vous voulez, on pourra en parler. Mais la classification Dewey, de 1 à 10, elle range toutes les productions humaines, toutes les... Eh bien oui, la classe 2, la classe des religions. Alors ça va de 2,0 à 2,9. Eh bien de 2,0 à 2,8, c'est la religion chrétienne. 2,9, toutes les religions du monde. Si ça, ce n'est pas une vision, mais ce n'est pas péjoratif, c'est une vision totalement occidentale sur le reste du monde. Mais c'est normal. C'est normal, mais il faut le reconnaître. Alors avec le web, avec le numérique, ça a pris une autre dimension. D'abord parce qu'on pouvait aller demander aux gens dans les bibliothèques, mais au fait, ça tranche votre truc. Ça a pris une autre dimension. Vous allez dire, oui, mais avec le web, on peut interroger les mots et on a le document. Bah oui, mais pour avoir le document, il est accessible par les métadonnées. Les données sur les données. Méta, c'est données sur. Et donc là, j'en arrive aux théories mathématiques qui ont présidé à l'émergence des sciences de l'information et de la communication. C'était les théories de Bell, de Shannon, de Weaver. C'est-à-dire, c'était les théories qui étaient des théories. Ils travaillaient au téléphone, ces gens-là, et c'était le message, le bruit. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de bruit, d'ailleurs. Voilà. Et de cible. Puisque pendant la Deuxième Guerre mondiale, ces théories ont été adaptées au tir des DCA pour atteindre les avions qui allaient à grande vitesse. Bon, c'est pas l'objet du truc, mais ceci étant, ça a impacté, puisqu'après, on les a appliquées aux sciences humaines. Oui, mais la communication entre humains, c'est pas une théorie mathématique. C'est autre chose. Et là, du coup, les sciences de l'infocom se sont emparées de ça, sont nées de ça. En plus, avec les immenses banques de données, etc., fallait bien classifier les trucs. Et on en arrive donc aux menaces en ce qui concerne le monde du numérique. C'est ma dernière partie. On pourra revenir sur la menace précédente, mais c'est cette vision réductionniste et mathématique qui s'applique aux productions humaines. C'est à peu près là où je voulais en venir. Bon. Côté des menaces, il y a plus de menaces, mais après je vais finir par une chance quand même, parce que le numérique est une chance pour les sciences de la culture. Les menaces, ça a commencé, moi qui travaillais dans les bibliothèques, alors il y a eu le choc pétrolier de 73, j'y travaillais pas, mais les abonnements numériques aux revues scientifiques, parce que je travaillais en bibliothèque de sciences. Quand une bibliothèque, en 73, avec le choc pétrolier, il y a eu beaucoup de désabonnements dans les bibliothèques universitaires, parce qu'il fallait le payer en dollars, et là, elle ne pouvait plus suivre. Mais elles gardaient leurs anciennes archives. Les archives étaient dans les rayonnages. Avec le numérique, quand une bibliothèque se désabonne, elle perd les archives parce qu'elles sont propriétaires de l'éditeur. Et ça change tout. Ça change tout parce que sur les épaules de qui ? Comme disait Newton, si j'ai vu plus loin, c'est parce que je suis montée sur des épaules de géants. Sur les épaules de qui vont monter les générations futures avec des privatisations d'archives scientifiques ? Alors, c'est organisé. Très justement, le mouvement des Open Archives, dont je pense Yves Le Crenier, quand il est venu ici, il a dû parler, mais bon, comme il n'est pas là, je ne vais pas en parler pour lui. Et les bibliothèques se sont organisées en consortium. Néanmoins, elles perdent encore. Quand dans le bouquet, il n'y a plus le périodique, elles perdent leurs archives. Bon. Deuxième point des menaces du numérique, c'est la standardisation, donc la normalisation. La standardisation qui s'est faite non pas sur des principes académiques, mais sur des principes industriels. La standardisation de ce qu'on a appelé le software engineering, le génie logiciel. Alors, il y a eu deux conférences de l'OTAN en 1968. L'OTAN, je n'ai pas besoin de vous présenter, hein, ce n'est pas une association. Voilà. Voilà, merci. Qui voulait mettre fin au travail artisanal des ingénieurs qui composaient des logiciels dans leur garage. En gros, c'est le mythe américain du garage, etc. Et ça allait dans tous les sens. Donc, ils ont dit, halte là, il faut standardiser, standardisez-moi tout ça. À part que quand c'est l'OTAN qui le dit, ça augure mal de l'avenir. Et finalement, en 1989, donc quand même pas mal d'années après, 11 industriels vendeurs, et pas des plus petits, ont créé l'OMG, rien à voir avec les OGM, mais l'OMG pour Object Management Group. Et là, on a spécifié les méthodes, architecture logicielle, langage et outils. Langage, c'est le langage orienté objet. Et donc, on a spécifié comment devaient être structurés les langages pour représenter les choses. Et ces langages-là sont spécifiés sur le mode ontologique d'un point de vue informatique. Alors l'ontologie, c'est l'être en philosophie. Moi, je ne suis pas philosophe, mais je commence quand même par lire pas mal de choses. Et les rapports ontologiques, c'est les rapports père-fils ou mère-fille, c'est-à-dire éteint. Et le web, les métadonnées du web, elles sont ontologiquement organisées. Et je vous invite à aller sur... un anneau pour les unifier toutes, comme le seigneur du même nom, c'est WordNet. Word comme nom et net comme net. Voilà. Et donc, c'est la ressource, la banque de données qui sert à l'organisation des métadonnées du web. C'est-à-dire que sur WordNet, bah oui, tout passe par l'anglo-américain, toutes les langues du monde, je vous dis, une langue pour les unifier toutes. C'est-à-dire quand on passe du français au chinois, bon, on passe par WordNet. Et donc, l'organisation des connaissances de WordNet, eh ben, il n'est pas neutre. Comme nos classifications du web d'hier, bien entendu. Voilà. Alors, dernier point, le moteur de tout ça, je vais vous parler de Google un tout petit peu, parce que Google vend des mots, en fait. Google a 50 milliards de bénéfices 2012, ou chiffre d'affaires, peut-être bénéfices, je crois. Enfin bon, bref. J'ai un doute là. Je sais plus, j'ai noté 50 milliards 2012, je ne me rappelle plus. Enfin bon, quand même, c'est quand même colossal. Hein. Google, deux algorithmes. Vous savez, les algorithmes, ces petits programmes suite d'opérations finies qui permettent d'eux. Premier algorithme de Google où il a surplanté tous ses concurrents, c'est le classement des pages, le page rank, où là, l'ordre de classement des pages est en fonction de la somme des valeurs des documents qui renvoient vers ces pages. Donc, ce n'est pas les derniers documents, mais c'est la somme des documents qui renvoient vers ces pages qui faisait le classement de Google, donc qui lui a permis effectivement de supplanter à peu près tous ses concurrents. Ça a fait disparaître quasiment tous les moteurs de recherche. Ça l'a rendu très populaire, mais ça ne l'a pas rendu riche. Deuxième algorithme qui a rendu riche Google, c'est la vente de mots. Système AdWords depuis 2000. Alors voilà, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'avant, quand l'internaute, vous, moi, on tapait des mots, les mots avaient une valeur d'usage, puisque fallait que le mot soit dans le document, qu'il renvoie, etc. etc. Ben maintenant, les mots sont vendus. Autrement dit, quand un internaute tape un mot, quel que soit ce mot, eh bien, ce mot est apparié à des sites commerciaux, visibles ou invisibles, qui dès que vous... Alors, c'est plutôt visible parce qu'il faut que l'internaute clique sur le site pour que le site paye Google. Néanmoins, invisible, ça marche aussi. Donc, c'est pour ça que vous vous dites, ah ben zut, j'ai cherché des choses sur les lacets de chaussures et ma prochaine connexion, et voilà qu'on me présente plein de publicités pour acheter des chaussures ou des lacets de chaussures. Mais d'où que ça vient? Eh bien, ça vient que les entreprises qui vendent des lacets de chaussures ont payé Google parce que vous avez tapé le mot lacets de chaussures. Voilà. Donc, là, ça les a rendus mais très, très... très, très riche. Tous les milliards de bénéfices, ils viennent de là. Google vend du mot. Et on appelle ça le capital linguistique. Bien. Alors, c'est naturellement à l'insu de votre plein gré, comme un célèbre coureur cycliste. Et les marchés des mots, alors les mots qui sont les mots propres, les noms propres se vendent très très bien. Il y a deux noms propres qui sont en tête du hit parade pour la France, c'est Picasso et Freud. Ils valent Freud. Alors, mais les noms propres ou les noms de lieux, tout ça, ça change. Hein, parce que à tous les fixistes qui me disent « Oui, mais les noms de lieux, ils ne changent pas », je leur fais remarquer que maintenant, Dakar, ça renvoie à une course en Amérique latine. Hein. Bah oui, tout change pas du jour au lendemain, mais la langue est cette identique qui change en permanence en chacun de nous par l'usage que nous en faisons. Alors les données, les données, elles ne tombent pas du ciel. Hein. Elles ne sont pas plus objectives que le reste. Et les sciences de l'information et de la communication, je vais en rajouter une petite couche, vous allez dire que je leur en veux beaucoup, mais c'est vrai qu'elles surfent sur la vague et on ferme, en plus des départements de lettres classiques, etc., y a pratiquement plus de... Enfin, pas pratiquement, mais les chaires de linguistes ont drastiquement fermé aux États-Unis. Mais l'information, la communication se porte très, très bien. Voilà. En France, on nous a fait un institut des sciences de l'information et de la communication. Et par contre, les laboratoires de linguistique, il n'y en a plus un affilié au CNRS. Mais enfin, il n'y a plus de CNRS non plus comme agence de moyens pour les sciences humaines ou très, très peu. Alors, finalement, on assiste à la déferlante des données, qu'on appelle les big data. Et en fin de compte, ce qu'on retrouve, c'est que une même chose, un même concept est censé s'exprimer pour tout le monde. Autrement dit, puisque le monde est le même pour tout le monde, eh bien, hardi petit, les mots, pourquoi pas, et donc on peut passer sous les fourches codines d'une langue pour les exprimer toutes. Et de ce point de vue-là, les textes, les documents sont l'objet d'une maltraitance infinie puisqu'ils sont considérés comme des sacs de mots. Le mot n'est pas de moi, hein. Il est des informaticiens et de tous les gens qui travaillent, enfin tous les gens, une bonne partie des gens qui travaillent en traitement automatique des langues, on extrait des mots et on les organise. Et on les extrait de tout leur contexte. Et c'est comme ça qu'on donne, on donne à manger, on ne donne pas à penser. Et l'accès aux choses régit l'existence des choses. Ça va jusqu'au point où des gamins dans l'air. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais on m'a rapporté l'affaire que des élèves dans le secondaire, quand le prof dit chercher des informations, chercher sur tel domaine, bah, le gamin il arrive et il donne à son instit le site, l'adresse internet. Voilà madame. L'accès aux choses fait la chose. Mais ce n'est pas la lecture des choses. Alors j'en arrive à la chance, c'est pour finir. La chance sur les sciences de la culture, ben c'est le numérique aussi. Pourquoi ? Parce que grâce, d'abord, les sciences humaines et sociales et toutes les sciences ont accumulé une quantité vertigineuse de descriptions des langues, des cultures, de l'histoire, des peuples, je parle de l'anthropologie, etc., etc., des textes. Voilà. Et tout ça, ben finalement, on peut y avoir accès en texte plein. On n'a plus besoin, enfin, on n'a plus, oui, ben oui, on ne devrait plus avoir besoin des classifications, on peut avoir accès au texte plein. Pourquoi s'en priver ? Et grâce aussi à l'informatique, on a des outils maintenant, qui ne sont pas les outils d'extraction, mais qui sont des outils qui nous permettent de comparer les corpus. Donc, j'en arrive au point essentiel sur lequel je voulais terminer, c'est que les sciences de la culture remplace l'économie de la diffusion par une déontologie de l'interprétation. C'est quoi la déontologie ? Ben, la déontologie, d'abord, les quasi-synonymes les plus proches sont morale et éthique, alors ça va très bien avec cette université. C'est un ensemble de règles qui régissent une pratique professionnelle. Et là, à partir du moment où on a accès aux données plein texte, on doit avoir une démarche déontologique de constitution de son corpus, celui que l'on va étudier. Et ce corpus, il ne vaut pas en soi, il vaut par rapport à un corpus de référence qui souvent nous sert de garant. C'est comme ça qu'hier, j'ai pu parler de l'adjectif blanc dans le journal Le Monde, les 10 ans du français contemporain c'est en général le monde, il y a des articles à peu près sur tout, et le substantif blanc, en fin de compte, le sens n'étant que différence, grâce au traitement statistique des données, qu'on appelle la textométrie, on s'est aperçu qu'il y avait des occurrences bien plus importantes du substantif blanc dans les sites racistes que dans la langue française générale. Comprenez, si on ne sait pas ce que c'est, on sait par différence ce que c'est. Ce n'est pas à vous qui êtes massivement dans les domaines scientifiques que je vais vous apprendre que par différence, on comprend plein de choses. Et donc, c'est une chance à condition qu'on ait cette démarche d'attester des données, parce que les données, on peut les aspirer, sac de mots et tombe du ciel. Non, les données, c'est ce qu'on se donne et on doit pouvoir rendre compte des données que l'on traite. Que dirait-on d'un archéologue qui prendrait plein de poteries, qui les casserait et qui prendrait des bouts épars pour les étudier? Que dirait-on de cet archéologue? Bah, pour les sciences, pour la linguistique qui est la science des textes, c'est pareil. On peut faire parler et finement les choses. Alors je donnerai pour terminer un exemple, qui est un exemple emblématique. Mais pour montrer, y compris que dans les sciences humaines et sociales et dans la philosophie, il y a des résistances très fortes. Parce que mon exemple, il vient de philosophie. Grâce à la publication très récente des cahiers noirs de Heidegger, des collègues linguistes, dont mon collègue François Rastier, a étudié, donc numériquement, le corpus d'Heidegger en comparaison avec un corpus néo-nazi. Il n'avait jamais été étudié comparé à un corpus néo-nazi. Tant dans la ponctuation que dans des périphrases ou des blocs de phrases complets, corpus des années 30-45 en Allemagne. C'est nazi, excuse-moi, t'as raison. Merci, parce que je parlais des sites néo-nazis tout à l'heure. Nazi. Eh bien, on peut dire qu'il n'était pas qu'appartenant au parti nazi. C'est qu'il y a bien une philosophie, et quand on date les choses, qui correspond à la nécessité d'une relecture d'Heidegger. Et vous savez ce que font les gens français, comme Luc Ferry, spécialiste, il est Heidegger en français hein, quand même. Cette étude a été faite en allemand, parce que naturellement, pour le comparer à un corpus des discours de Goebbels ou de Mein Kampf, il valait mieux le faire en allemand. Eh bien, ils disent, c'est un grand homme, certes, il était en partie nazi, mais on n'a pas besoin de le réinterpréter. Eh bien, grâce au numérique, on peut remettre sur la table de travail les œuvres de la culture humaine, et on doit les réinterpréter. Lui, comme les autres, il n'y a pas de grands auteurs, il n'y a pas de grandes œuvres. À partir du moment où l'ensemble d'un corpus de quelqu'un, c'est parce que l'ensemble de son corpus n'était pas accessible. Maintenant, tout n'est pas numérisé, mais on a quand même eu les 900 et quelques des cahiers noirs. Et donc, on peut dire, non pas de l'impressionnisme, mais de dire, ben voilà, comparer un corpus avec un autre et faire parler les corpus. On a donc une nouvelle paire de lunettes grâce au numérique. C'est un peu la chance que l'on a, mais à condition de prendre le temps de la lecture et non pas du profilage, parce que sur Internet, j'ai parlé de Google, mais les logiciels aujourd'hui sont des logiciels d'interprétation à votre place, qui sont en fin de compte des logiciels de profilage, voire de... Maintenant, on n'utilise plus profilage, on parle... les derniers cris, c'est la personnalisation. Mais ça revient du profilage, puisque ce n'est pas vous qui faites. On fait à votre place. Je pourrais donner de nombreux exemples sur des sujets d'études pour lesquels j'ai travaillé avec mes collègues de sciences. Et donc, on a l'occasion de pouvoir lire à condition, et là, j'ai acheté hier l'ouvrage que je n'ai pas lu, « L'homme post-numérique », on retrouve la même chose, hein. Enfin, on retrouve la même chose, je n'ai pas lu. Hein. Donc, c'est l'histoire de la lenteur. On retrouve la même chose dans ce petit, alors il est édité tout petit, et il vaut 3 euros aux éditions Alias, c'est le petit texte de Paul Valéry, Le bilan de l'intelligence, c'est pareil. À cette accélération forcenée qui voudrait nous rendre invalide le passé, Paul Valéry en 1935 a écrit « Le temps nous est devenu insupportable, il faut arrêter. La durée nous est devenue insupportable. » C'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter pour penser. Ce n'est pas la quantité qui fait la qualité.